Bonsoir. La Cour constitutionnelle a été investie samedi dernier à Kinshasa. Avec l'installation de cette haute cour, la RDC dispose désormais d'un instrument juridique qui a la compétence de juger le président de la République, le premier ministre. Cet organe est aussi juge de la constitutionnalité des lois ainsi que de contentieux électoraux. Quelle analyse faire de cette cour? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 6 avril 2015. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Jean-Pierre Kambila, conseiller politique du chef de l'État et cadre du PPRD. Monsieur Kambila, bonsoir.
Bonsoir et merci de l'invitation.
Valentin Moubaké, cadre de l'UDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Moubaké, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiokapi.net.
Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment samedi 4 avril dernier devant le chef de l'État, les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le Conseil supérieur de la magistrature et autres personnalités du pays au Palais du Peuple à Kinshasa. Avec l'installation de cette haute cour, je l'ai dit, la RDC dispose désormais d'un instrument juridique qui a la compétence de juger le président de la République et le premier ministre. D'autres détails avec vous, Berry Louchaka.
Samedi dernier au Palais du Peuple, le chef de l'État congolais a reçu le serment des membres de cette haute cour du pays qui ont juré de remplir loyalement et fidèlement leurs fonctions conformément à la constitution du pays. Ils se sont également engagés à exercer leurs fonctions en toute impartialité et au respect de la constitution et des lois de la République ainsi qu'avec dignité. Par ce serment, les 9 membres de la cour constitutionnelle et 6 autres du parquet général près cette cour ont marqué leur entrée en fonction en signant un procès verbal. La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des édits et des règlements intérieurs des chambres parlementaires. Cet organe reçoit des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. En matière électorale, la Cour constitutionnelle a la compétence de connaître les recours et trancher par ses arrêts les contentieux électoraux. Les personnes qui composent cette Cour sont soit professeurs de droit, soit anciens magistrats. Elles ont été désignées par le Parlement, le Conseil supérieur de la magistrature et la présidence de la République. Il s'agit de Vundwa Wetepemaku, Jean-Pierre Mavungu, Bania Kouluapé, Jean-Louis Essambo, Luamba Bindu, Corneille Wassenda, Funga Molimo, Kalonda Kele et Kilomba Ngozi Mala. Notons par ailleurs que c'est dans les années 60 qu'il est envisagé de créer une cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Il a fallu plus de 50 ans pour voir matérialiser cette volonté afin de départir la Cour suprême de justice de plusieurs matières enchevêtrées.
Merci Berry Louchaka. Les réformes de la justice amorcent la rupture avec l'ordre judiciaire ancien en RDC. Avec l'installation samedi de la Cour constitutionnelle par le chef de l'État, restent à présent les deux autres juridictions de l'ordre judiciaire et administratif, à savoir le Conseil d'État et la Cour de cassation. Mais qu'est-ce qui fait la démarcation entre ces juridictions en attendant leur installation complète? Que devient l'actuelle Cour suprême de justice? Explication avec Jeff Ngoy.
Conformément à la Constitution et à sa loi organique, la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives. Juge pénal du président de la République et du premier ministre, elle joue un rôle législatif hautement politique. En revanche, la Cour de cassation joue un rôle purement judiciaire. Elle est une juridiction d'annulation des décisions rendues en dernier ressort, mais aussi une juridiction d'annulation pour des décisions des autorités centrales, notamment les ministres, les députés et sénateurs. Tandis que le Conseil d'État conserve des prérogatives administratives. Il connaît en premier et dernier ressort, en appel, des recours pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales. En attendant l'installation effective de toutes ces juridictions, la Cour suprême de justice, qui avait toutes ses prérogatives, transfère à la Cour constitutionnelle ses compétences sur la constitutionnalité et l'inconstitutionnalité des textes et lois. Mais elle ne disparaît pas tout de suite. Elle exerce encore provisoirement les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État.
Merci Jeff Ngoy pour tous ces détails. Jean-Pierre Kambila, conseiller politique du chef de l'État et cadre du PPRD, comment avez-vous accueilli l'installation des membres de la Cour constitutionnelle samedi dernier?
Très positivement. Je l'ai accueilli comme étant un pas de plus dans le processus de démocratisation de notre pays. Votre confrère vient de le dire, nous attendons cette institution depuis très 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 longtemps, les années 60 pratiquement. Aujourd'hui nous y sommes, donc le président de la République actuelle a rempli son contrat.
Est-ce que l'installation...
Qui est de faire avancer la démocratie.
Est-ce que cette installation n'arrive pas en retard quand même, parce que les membres de cette cour ont été nommés il y a longtemps quand même, l'année passée?
Non, je crois qu'il ne faut pas courir dans ce genre de choses. C'est une cour qui a un rôle capital pour le progrès de notre démocratie. Votre collègue vient de l'expliciter. Il faut faire les choses en son temps. Il ne faut pas aller plus vite que la musique.
Alors, il y a cet auditeur, Gombo Augustin, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit ceci: nous saluons la prestation des serments des 9 membres de la Cour constitutionnelle. Cependant, quelques observations méritent d'être soulevées. Plusieurs voix se sont fait entendre pour décrier la façon dont ces membres étaient désignés. Ces derniers seront-ils en mesure de garder l'impartialité, sachant qu'ils sont rédévables aux autorités qui ont facilité leur nomination?
Non. Un juge à la Cour suprême, Cour constitutionnelle, Conseil d'État, n'est redevable à personne. Il n'est redevable que à sa propre conscience et à la responsabilité qui lui a été confiée. Ça, il faut que ce soit sûr. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de nos compatriotes. Nous ne pouvons pas vivre une démocratie de défiance. En démocratie, il est nécessaire qu'il y ait une dose de confiance. Ça, c'est un. Deuxièmement, la manière dont ils ont été choisis, mais c'est la Constitution qui le dit. La Constitution n'a pas été écrite par un parti politique dans notre pays. C'est une Constitution qui a été acceptée par nous tous. Et si vous lisez, si notre compatriote a l'occasion de fêter la Constitution, je lui conseillerais d'aller chercher l'article...
Il faut parler dans le micro.
L'article 160, où les charges de cette Cour sont explicitées à l'article 161, où on indique comment ces juges sont sélectionnés.
Et donc vous estimez que cette Cour sera indépendante?
Nous devons faire confiance en nos compatriotes et dans nos institutions. Si nous nous installons dans le système où on soupçonne tout le monde, avant même qu'ils aient posé le premier acte, mais on s'en sort pas. Nous sommes en train de mettre, à ce moment-là, on dirait que nous sommes en train de mettre en place une culture politique particulière. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut que les juges nous tombent du ciel? Non, les juges doivent sortir de notre société. Et ces juges-là sortent de notre société selon les normes que nous, même à travers notre constitution, avons mis en place. Il faut qu'on l'accepte et surtout j'insiste sur cette notion de confiance. Nous n'avancerons pas s'il n'y a pas une dose de confiance entre nous.
Alors parlons des compétences de cette Cour constitutionnelle. C'est la Cour qui va juger le président de la République et le Premier ministre. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui mettent quand même assez de doute de voir ces gens nommés par le président de la République en train de juger le chef de l'État.
Bon, déjà, ce n'est pas le seul rôle qu'ils ont. Hein.
C'est
le rôle le plus important. Non, à mon avis, mais ça c'est un avis. Le rôle le plus important de cette Cour, c'est de juger sur la constitutionnalité des lois. Il faut que nos lois respectent notre constitution pour qu'on avance dans la démocratie. Si l'on pense qu'on met une juridiction que pour juger les gens, ça veut déjà dire que nous sommes dans une situation de défiance. On pense qu'on va juger le Premier ministre pourquoi? Lorsqu'il aura commis une infraction. Mais le Premier ministre, il n'est pas en place pour commettre des infractions, il est en place pour faire son travail. Alors, mais que la Cour constitutionnelle ait dans son rôle aussi cette dimension-là, oui, Mais ce n'est pas la dimension essentielle. C'est d'abord, il faut qu'il y ait un arbitre, quelqu'un qui a un œil de spécialiste, qui regarde si nos lois, si les décisions de nos dirigeants respectent la loi fondamentale, la loi de base sur laquelle nous sommes tous d'accord. C'est ça l'essentiel, parce que c'est ça qui va faire la démocratie. Alors, ne nous arrêtons pas. C'est leur rôle, mais je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Et je pense que, puisque je leur fais confiance, parce que ce sont des Congolais, ils aiment ce pays, et comme moi, ils veulent que ce pays aille de l'avant. Comme moi, ils ont une conscience. Et ils savent que le pays leur a donné confiance. Dès qu'ils sont nommés, ils sont indépendants. Et c'est comme ça que ça se passe dans presque tous les pays du monde, et en tout cas dans les pays qui se veulent démocratiques et qui veulent avancer. Nous, nous n'allons pas inventer la roue. Et s'il y a un autre moyen pour nommer des juges qui soient aptes à juger sans état d'âme, ben, il faut qu'on le propose et qu'on le mette dans la Constitution et puis qu'on suive ce schéma-là. Mais pour le moment, nous, c'est comme ça que ça se passe. Et le président, bien sûr qu'il les a nommés, mais il ne les a pas tous désignés. Tous les gens qui sont là, parmi les neuf, le président n'en a plus ou moins choisi que trois. Et je dis bien plus ou moins, parce que même là où il choisit, c'est les gens qu'on lui propose.
Merci, Monsieur Kambila. Valentin Moubaké, cadre de l'UDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Comment vous analysez, quelle analyse vous faites de cette cour qui a été installée samedi dernier?
Bien, vous venez d'ailleurs de poser deux problèmes à Monsieur Kambila, la mise en place tardive de cette cour constitutionnelle et la désignation de ses membres. Comment ces membres ont-ils été désignés? Voilà les deux questions fondamentales qui nous poussent à nous poser la question de cette installation tardive. Ce n'est pas la première fois que M. Joseph Kabila procède de la sorte. Tout ce qu'il a essayé de mettre en place politiquement ne répond que de ses intérêts politiques personnels. Il a fait avec la CENI, CEE en CENI. Après le dialogue intercongolais, il fallait organiser des élections. Eh bien, la CEI devait s'effacer devant la CENI au plus tard après la mise en place des institutions issues des élections, c'est-à-dire le Sénat en 2007. Eh bien, la CENI, il l'a installée en 2010. Et vous savez comment les membres de la CENI, soi-disant indépendante, ont-ils été désignés, et la polémique qui court jusqu'à aujourd'hui. Il a fait la même chose avec le CESAC. Et le CESAC a été d'ailleurs chambardé de l'intérieur, mais ça n'a jamais été un organe d'appui à la démocratie pour réguler l'accès aux médias dans l'équité. Aujourd'hui, nous sommes devant la Cour constitutionnelle. Madame, un petit rappel historique. Les deux chambres du Parlement ont adopté la loi portant création de la Cour constitutionnelle en 2011. Je répète, en 2011. Et cette proposition, appelons-la comme ça, ce dossier approuvé par les deux chambres, a été transmis au chef de l'État pour promulgation. D'après la loi, la Constitution, les articles 136, 137, 140, il avait 15 jours, soit pour promulguer, soit pour demander une seconde lecture. Il ne l'avait jamais fait. Il ne l'avait jamais fait. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il a fait en 2011? Monsieur Joseph Kabila ignore la Cour constitutionnelle. Il ressuscite la Cour suprême de justice dans sa compétence pour connaître de la constitutionnalité des textes de loi et même du contentieux électoral. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nomme, lui, Joseph Kabila, trois présidents nouveaux à la Cour suprême de justice et 17 conseillers qui se sont occupés des conflits électoraux. Et cette loi, il la promulgue en octobre 2011, pendant la campagne. Ces nominations-là. Et aujourd'hui, vous vous imaginez 2011. Maintenant, en 2013, il promulgue la loi portant création de la Cour constitutionnelle. 2013. Pendant que la Constitution rendait déjà opérationnel ce projet de loi-là depuis 2011, eh bien, il promulgue en 2013. Et il installe quand? En 2015. Voilà l'exemple même
Ce que nous disons toujours des républiques bananières, où c'est la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus qui régit.
Vous pensez qu'il y a violation de la Constitution?
Ah, mais ben, pas tout au long, depuis 2011. Alors aujourd'hui, on dit que c'est le premier depuis 50 ans. On n'a jamais fait ça. Mais quel mérite peut-on accorder à une mise en place cacophonique de cette manière-là? Quel est l'intérêt qu'il a visé? C'est là tout le problème. Voilà la grande question fondamentale. L'installation tardive et la nomination de ses membres. Aujourd'hui, même cette Assemblée nationale, même ce Sénat, ils sont incapables d'interpeller M. Kabila pour dire « Mais écoutez, nous vous avions transmis depuis 2011, vous aviez 15 jours pour une seconde lecture, vous ne l'aviez pas demandé, vous deviez promulguer, vous n'aviez pas promulgué, vous avez continué à nommer déjà la Cour suprême de justice pour connaître des conflits électoraux, c'est en violation de la Constitution. En 2013, maintenant, vous promulguez et en 2015, vous installez. Ça correspond à quelle logique?
C'est vrai que, comme vous dites, cette installation arrive en retard, mais est-ce que ce n'est pas important d'avoir cette Cour constitutionnelle en RDC aujourd'hui?
Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis 2006 que la Constitution existe et qui parle de cette Cour constitutionnelle. Vous parlez de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Eh bien, vous allez attendre 2020, hein? Enfin, la veille de son départ, peut-être, pour mettre en place. Donc, nous nous posons la question de savoir quels sont les mobiles qui guident M. Kabila quand il est devant des problèmes d'État. Parce qu'ici, c'est encore une fois, comme la CEI en CENI, comme le CESAC, et j'en passe, ses intérêts personnels et de sa famille politique.
Merci Valentin Moubaké, professeur Ngondankoy. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, d'abord, comment vous avez accueilli l'installation de cette Cour constitutionnelle, des membres de cette Cour constitutionnelle?
À titre personnel, c'est une bonne nouvelle. Je note aussi que même mes co-débatteurs, chacun peut-être à sa manière, n'a pas remis en cause l'utilité de cette juridiction, parce qu'on l'attend depuis 1960 et depuis la loi fondamentale. Elle a été reprise dans la constitution du 1er août 64, dans celle du 24 juin 1967. Elle avait été prévue dans plusieurs projets de constitution que nous avons connus, mais finalement c'est en 2015 que nous l'avons, à la suite du vote de la constitution de 2006. Donc c'est une bonne chose, ne serait-ce que parce que dans une démocratie, si on veut que la politique se mène conformément aux règles établies, il faut absolument avoir un organe, une juridiction qui puisse apprécier la constitutionnalité des actes des uns et des autres. Donc de ce point de vue, c'est plutôt une bonne chose que nous puissions avoir enfin des juges à la Cour constitutionnelle. Mais
arrive-t-elle en retard?
Sans doute. Ce que M. Moubaké a rappelé, c'est exact. La loi a été votée au Parlement en 2011, effectivement, mais elle n'a été promulguée qu'en 2013, le 15 octobre exactement. Et comme vous le savez, il a très bien rappelé, le président de la République a 15 jours pour promulguer une loi, et s'il ne peut pas promulguer dans ce délai-là, il demande une seconde délibération. Mais ici, le problème, c'est que c'est une loi organique. Comme c'était une loi organique, le président ne pouvait pas la promulguer avant d'avoir recueilli l'arrêt de la Cour suprême de justice en matière de constitutionnalité. Ce qui fait que là, on retombe dans les délais de 30 jours qui est réservé à la Cour suprême de justice pour examiner la constitutionnalité. Mais n'importe comment, le fait que la loi ait été promulguée en 2013, ça a accusé un retard énorme. Et moi-même, j'ai eu à écrire que la Cour est... Il y a une inconstitutionnalité congénitale, hein, parce que la loi elle-même a été promulguée au-delà de ce que la Constitution a prévu. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut quand même saluer l'avènement de cette Cour et même l'installation des membres. L'installation des membres est arrivée aussi beaucoup trop tard, parce que la loi organique elle-même elle dit que la Cour doit être installée dans les 6 mois qui suivent la promulgation. Bon, on est au-delà de 6 mois, mais en tout cas... Le problème qu'on peut se poser aujourd'hui, qui peut apprécier la constitutionnalité de tous ces actes, puisque les intéressés sont là.
Donc, ils sont les juges. Est-ce que vous êtes constitutionnaliste, essayez de répondre à cette question?
Non, le problème c'est que même si on saisit les membres de la Cour actuelle, d'abord il faut avoir un texte, un support qui va prouver l'inconstitutionnalité. Ensuite, c'est eux-mêmes qui vont arbitrer, c'est eux qui vont juger. Vous savez que leurs décisions sont inattaquables. Donc de ce point de vue-là, le débat qu'on mène aujourd'hui est un peu creux, parce que bon, on ne va pas avoir des conséquences sur le plan en pratique. Mais en réalité, personne ne remet en cause le rôle d'une juridiction constitutionnelle dans une démocratie. Et je crois que pour notre pays, bon, avec toutes les précautions d'usage, il faut plutôt dire que bon, voyons voir ce qui va arriver.
Et que devient la Cour suprême, professeur ?
Bon, alors la Cour suprême de justice, son destin a été défini déjà dans la Constitution de 2006, l'article 226. Elle n'est là qu'à titre transitoire. Elle exerce à titre transitoire les compétences de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et l'article 223 précise bien que si une des trois cours est installée, elle cesse d'exercer ses compétences-là et toutes les affaires qui sont pendantes devant elle, elle le transmet en l'État, à la juridiction qui est installée. Je vous signale d'ailleurs que la loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire a déjà été adoptée et promulguée et on attend toujours l'installation de la Cour de cassation pour que la Cour suprême transfère également ses compétences à cette juridiction.
Et donc, si on vous comprend bien, la Cour suprême de justice est appelée à disparaître.
Elle est appelée à disparaître parce que c'est l'option qui avait été levé à la Constitution de 2006.
Mais puisqu'on n'a pas encore la Cour de cassation et le Conseil d'État, est-ce qu'elle ne va pas jouer le rôle de la Cour de cassation ?
C'est ce que j'ai dit, jusqu'à l'installation de ces deux juridictions. La Cour de cassation et le Conseil d'État, la Cour suprême de justice reste et elle exerce leurs attributions conformément à la Constitution et aux lois qui ont été votées, en tout cas pour ce qui concerne la Cour de cassation. Et pour ce qui concerne le Conseil d'État, la loi va être peut-être votée au cours de cette session au Parlement et nous l'attendons tous.
Merci, professeur Gaspard Ngonakoy. Jean-Pierre Kambil, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Philippe Maseka à Kolwezi au Katanga. Cette Cour pourra-t-elle se pencher sur de nombreux cas de violation de la Constitution dénoncée en République démocratique du Congo? Et connaissant le contexte dans lequel la Cour constitutionnelle a été mise sur pied, peut-on finalement attendre des résultats positifs sur le fonctionnement de cette Cour?
Réponse.
Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je fais confiance aux institutions de la République. Et j'aimerais dire à mon compatriote qu'il ne suffit pas que vous ou un monsieur X pense que la Constitution a été violée dans tel ou tel cas pour que ce soit le cas. Il ne suffit pas de le penser. Tout à l'heure, j'ai entendu le représentant du DPS critiquer critiquer la CENI. Critiquer la manière dont les gens, ceux qui nous représentent la CENI ont été faits. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il ignore que la personne d'elle qui parle aujourd'hui pour la CENI, elle est de quelle origine politique? Elle vient de quel parti? Si mes souvenirs sont bons, cette personne a été présentée là-bas par l'opposition. Mais aujourd'hui, dès lors que cette personnalité, dans son nouveau rôle, prend de l'indépendance par rapport à son parti, c'est devenu quelqu'un qui n'a plus aucune légitimité. Non, c'est pas ça. Cette Cour est nécessaire, c'est elle qui va déterminer ce qui est anticonstitutionnel ou pas. C'est pas mon compatriote, ni moi. Et c'est pas son rôle à lui de dire les nombreux qui ont violations, les nombreuses violations. Quelles violations? Qu'il aille à la Cour, qu'il demande à la Cour si tel acte constitue réellement une violation. C'est à la Cour de dire. C'est ça la démocratie. C'est pas à lui de décider qu'il y a eu telle ou telle violation. C'est même pas au parti politique. C'est à cette cour-là, c'est ça la démocratie, c'est le respect des institutions et le respect des normes. C'est pas parce que je pense que c'est comme c'est, que c'est telle chose est rouge et que c'est forcément rouge. Non, c'est faux. Il faut qu'on sorte de ça.
Mais par rapport au retard avec lequel cette cour a été installée, vous avez suivi M. Moubaké et même le professeur Ngonakoy, c'est vrai, on salue l'installation de cette cour, mais elle arrive en retard quand même.
Elle arrive en retard par rapport au temps passé. Elle veut le faire, mais elle n'arrive pas en retard dans l'absolu. Parce qu'il compte, c'est d'avancer avec la démocratie. En 1960, Joseph Kabila n'était pas président de la République démocratique du Congo. Il est arrivé, comme tout le monde le sait, en 2001. Et de 60 en 2001, on n'avait pas presque tous nos constitutions et les projets de constitution prévoyaient la Cour constitutionnelle. Personne ne l'a fait. Maintenant, avec retard, j'en conviens, elle est là. regardons ce qui est fait et souhaitons qu'on continue de le faire bien et félicitons cette avancée. Parce que personne ne nie ici qu'il y a une avancée. Mais on ne va pas polémiquer sur le fait que c'est venu en retard, parce que la CENI aussi était venue en retard. D'accord, on est d'accord que c'est venu en retard, mais il est là maintenant. Et ce fait-là constitue une avancée considérable. Parce qu'au moins maintenant dans notre pays, on saura qu'est-ce qui est véritablement inconstitutionnel. Parce que c'est ce que dira cette cour-là qui sera incontestable. Et non pas ce que pense mon compatriote qui vient de parler tout à l'heure.
Merci M. Kambila. Valentin Moubaki, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia dans la province orientale.
Kassamba Wanango, à partir de Bounia, mieux vaut tard que jamais, reste à savoir si les membres de cette cour échapperont-ils de la mainmise de l'exécutif qui, pour le baiser de la cause, ignore la limite de son pouvoir.
Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Il se pose la question que nous nous posons tous ici. Cette mise en place tardive et bien sûr tout ce qui a été tourné autour de la désignation de ses membres, ce sont là les calculs politiques, pour ne pas dire politiciens, auxquels nous avons fait allusion tout à l'heure. Et nous avons pris comme exemple les autres institutions d'appui à la démocratie qui ont subi le même sort d'installation tardive, de marchandage autour des membres de ces institutions. Et nous savons aujourd'hui, nous sommes en train d'essuyer nos plâtres à cause du mauvais travail de ces institutions. J'en ai cité deux. Maintenant, la Cour constitutionnelle est là. Et bien sûr, nous saluons qu'elle soit là. Mais si elle a été mise sur pied, sur fond de ces deux questions fondamentales. Je vous ai rappelé les dates ici. Le professeur les a rappelées, les a confirmées en violation flagrante de la Constitution. Pour un chef de l'État qui veut mettre en place une cour constitutionnelle. Vous voyez la gravité des faits. Et cette inconstitutionnalité congénitale, telle que l'a souligné le professeur ici, dans la naissance même de cette cour constitutionnelle, mais ça pose un grave problème. Ça pose un grave problème. Mais bien sûr, personne ne pourra trancher cette question-là. Parce qu'ils sont juges et partis, ils ne peuvent pas se saborder. Mais ça traduit quoi? En tout cas, ça ne traduit pas la dose de confiance telle que M. Kambila l'a dit, qui doit s'installer entre nous. En tout cas, vis-à-vis de cette cour-là. Si vous devez déjà compenser avec un péché originel comme celui-là, eh bien, ils sont, j'allais dire, doublement humains. Ils ont hérité d'Adam et Ève. Et donc, ils sont mortels et ils ont tous les péchés du monde. C'est exactement cette cour-là.
Alors, par rapport en matière électorale, la Cour constitutionnelle a la compétence de connaître les recours et trancher par ses arrêts les contentieux électoraux. Déjà, à vous entendre parler, vous n'êtes pas très d'accord avec l'installation de cette Cour. Ça veut dire que vous n'allez pas accepter aussi des décisions qui seront issues de cette Cour lors des élections, par exemple?
Nous disons tout simplement que tout ce qui a entouré la création de cette Cour-là pose problème de confiance. Et nous allons être vigilants, parce que tout le monde se pose des questions. Une loi votée par les deux chambres en 2011. Très 15 jours à 30 jours, le chef de l'État viole lui. Promulgué en 2013, installé en 2015. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans l'entretemps? Ça veut dire qu'il y a eu des supputations, il y a eu des calculs, et ce ne sont pas des calculs pour l'intérêt du pays, comme nous avons connu dans d'autres institutions, dans d'autres structures. Et donc, nous nous disons, nous ne pouvons pas d'emblée avoir confiance à cette cour-là. Eh bien, nous allons la voir à l'œuvre et nous dirons, nous aviserons.
Alors, il y a Constant Ilunga, M. Moubaké, qui nous écrit depuis Kamina au Katanga. Il dit ceci, merci au chef de l'État pour l'investiture des membres de la Cour constitutionnelle. Cela prouve que la démocratie en marche dans notre pays.
Oui, ça c'est le discours du PPRD et de la famille de M. Kabila. J'ai suivi, mais même dans d'autres télévisions, il est le premier à mettre la Cour constitutionnelle, il est le premier, mais il est le premier à avoir aussi amené beaucoup de mauvaises choses dans ce pays, notamment ce que nous venons de décrire par rapport à la mise en place de cette Cour constitutionnelle. 2006, nous avons une constitution, madame, 2006, qui prévoit tout cela. Que fallait-il pour attendre 2015? Qu'est-ce qui a fait que nous attendions 2015 si ce ne sont que des calculs politiciens?
Merci, M. Moubaké. Professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi. au Katanga.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasai occidental. L'installation de la Cour constitutionnelle est une bonne chose, mais vu les enjeux de l'heure, il serait souhaitable, à mon humble avis, de surseoir d'abord l'installation de la dite Cour, car elle risque de se discréditer, étant donné que la plupart des juges nommés manque une certaine expérience en la matière.
C'est plutôt un auditeur qui nous appelle depuis Kananga, au Kasai occidental, professeur.
Merci, j'ai suivi la réaction de Maître Adrien. Je peux comprendre sa réaction, mais ce qu'il faut dire, c'est que, à l'expérience, aucune juridiction à travers le monde n'a reçu la bénédiction de tout le monde. Hein. Il y a eu toujours des gens qui applaudissent, d'autres qui sont contre, en fonction des enjeux, en fonction des calculs, etc. Mais n'importe comment, ce qu'il faut dire, c'est que, est-il nécessaire d'avoir une juridiction constitutionnelle dans une démocratie? Ça, c'est la question à laquelle il faut répondre. Quel que soit le moment, il faut se dire qu'un jour, il faut que cette juridiction existe si on croit véritablement aux valeurs démocratiques, aux valeurs d'un état de droit démocratique, etc. Alors, maintenant, maître insinue que certains membres de cette juridiction n'ont pas d'expérience. Je peux dire que ceux qui sont là, ils ont les qualités. Il y a des professeurs d'université, il y a des magistrats, il y a des avocats. On peut présumer qu'ils ont cette expérience. Peut-être qu'il peut poser la question en termes de technicité dans le maniement du procès constitutionnel, ce qui n'est pas toujours l'apanage de tout le monde, même parmi nous les juristes. Peut-être que là, nous aurons à redire, mais il faut voir cette juridiction à l'œuvre. Il peut avoir son opinion, mais je pense que quel que soit ce qu'il faut dire, une juridiction dans une démocratie est nécessaire. On a parlé beaucoup ici des compétences de cette juridiction parce que finalement, c'est à l'aune de l'exercice de ses compétences qu'on va juger la Cour. Finalement, c'est à l'aune de la notion même d'indépendance des membres de cette juridiction qu'on va juger de la crédibilité de la juridiction. Je peux vous dire que les mécanismes pour assurer l'indépendance des membres de cette juridiction ont été prévus. D'abord au niveau de la nomination. Une fois qu'ils sont nommés, ils ne peuvent plus être révoqués. Personne n'a le pouvoir de les révoquer. Même des nominations déguisées, etc., sont des situations tout à fait pas conformes au texte. Deuxièmement, il y a des garanties d'ordre financier, des garanties d'ordre matériel, sécurité, etc., qui doivent leur être assurées. Mais par-dessus tout, la garantie la plus importante pour un juge constitutionnel, c'est son indépendance d'esprit. On a souligné ici la conscience, on a souligné... Un ancien président du Conseil constitutionnel français, M. Robert Badinter, disait qu'un juge constitutionnel doit exercer ce qu'il a appelé le devoir d'ingratitude. Ça veut dire ne pas être reconnaissant, ne pas subir des pressions de ses amis politiques. On peut avoir été désigné par le président de la République, par le Congrès, par le Conseil supérieur de la magistrature. Une fois qu'on est nommé membre de la Cour constitutionnelle, on n'appartient plus à un camp politique. Là, c'est la 16 vraiment qu'il faut observer, et c'est pour ça qu'il a appelé ça le devoir d'ingratitude. On est obligé d'être ingrat, parce que les décisions que les juges constitutionnels seront amenés à prendre ne vont pas enchanter tout le monde, y compris même leurs amis politiques. Donc, de ce point de vue-là...
Et donc, on n'a pas les gens, les auditeurs ou les Congolais n'ont pas à s'inquiéter par rapport à l'indépendance même de ces membres qui constituent la Cour.
Non, je ne leur demande pas de chanter des poèmes à tout moment. Ils peuvent être vigilants, mais je ne suis pas pour la doctrine qui prône toujours le pessimisme. Il faut les voir à l'œuvre. Peut-être que demain, ils vont nous surprendre. Ce qui est important, c'est qu'ils maîtrisent bien le procès constitutionnel, puisque le procès constitutionnel a une certaine spécificité. Or, la plupart de ceux qui sont là, surtout ceux qui viennent de la magistrature et du barreau, ont y amené surtout des procès à caractère civil, à caractère commercial, etc. Nous voulons les voir à l'œuvre, si effectivement les différentes compétences qui sont dévolues à cette juridiction, le contrôle des constitutionnalités des lois, des actes législatifs, des actes réglementaires, l'interprétation même de la Constitution, c'est d'ailleurs une des premières compétences, le conflit des compétences, pas seulement entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, mais également entre l'État central et les provinces, le contentieux électoral et le contentieux référendaire, la protection des droits fondamentaux des citoyens. Tout cela, c'est des compétences qui sont dévolues à cette juridiction, et nous attendons qu'elles soient exercées en toute compétence, en toute indépendance et en toute impartialité, comme ils l'ont prêté dans leur serment.
Merci, professeur Jean-Pierre Kambilaya, maître Dieudonné Massoudi, qui nous écrit depuis Lubumbashi au Katanga. Il dit ceci, comme tout Congolais patriote, je me réjouis de la prestation des serments des membres de cette cour qui va finalement fonctionner en RDC. Seulement, elle aurait pu entrer en fonction depuis longtemps, mais comme c'est une institution fabriquée par les politiques, elle sera téléguidée par les politiques, du moins jusqu'aux élections présidentielles de 2016. La plus grande préoccupation, c'est leur indépendance. Comment se départiront-ils par rapport à ceux qui les ont nommés? On sent quand même une certaine méfiance des gens par rapport à cette cour constitutionnelle. Pourquoi, selon vous?
J'éviterais d'ennuyer les auditeurs, parce qu'il y a une réponse claire qui vient d'être donnée, là. Par le professeur. J'entends, toute institution.
Pourquoi, humaine, selon vous, les gens sont méfiants, quand même, face à cette cour constitutionnelle, hein?
Il y a deux raisons. Il y a d'abord une méfiance à caractère idéologique. Nous vivons dans un pays où certaines forces politiques ont beaucoup travaillé pour mettre nos compatriotes dans un système de défiance permanent. Nous vivons là, personne ne fait confiance en personne. Mais avec cette attitude-là, avec cette façon de voir les choses, on ne pourra rien construire. Parce que la base de la démocratie, c'est d'abord la confiance, en ce sens que vous déléguez votre propre pouvoir à quelqu'un. Vous dites, voilà, nous vous choisissons pour nous diriger, pour remplir un certain nombre de fonctions. Donc il y a déjà une confiance là. Et la confiance est un élément important. Il faut qu'il existe. Bien sûr qu'il faut qu'il se mérite avec le temps. C'est sûr. Mais vous ne pouvez pas, dès qu'on met une institution, déjà mettre en doute. Alors, à ce moment-là, il faut demander à ce qu'on change la constitution et qu'il y ait plus de, qu'on n'aille plus à la recherche d'une telle cour. Mais nous n'allons pas vivre ça dans une démocratie. Dans une démocratie, nous mettons en place des institutions, nous faisons confiance en ces institutions-là, jusqu'à preuve du contraire, pour que nous puissions...
Donc il faut laisser la cour fonctionner et puis elle sera jugée après.
Mais bien évidemment, on juge sur pièce. Et aussi, il faut quand même faire confiance aux Congolais. Nous avons une histoire. Et l'histoire, elle sert à faire aussi, à tirer les leçons des expériences. Tous nos compatriotes ne sont pas que des idiots. Je m'excuse. Et dans les 9 compatriotes qui ont été choisis, il y a des noms connus. Il y a des gens qui ne sont pas des amis de Joseph Kabila. Mais malgré ça, on les a choisis, on les a mis là, c'est pour qu'ils travaillent. Mais ce n'est pas parce que demain, ces gens prendront une décision qui ne vont pas vous plaire, ou plaire à X ou à Y, et, ah ben voilà, tout simplement parce qu'ils ont pris une décision qui ne me plaît pas, donc ils doivent perdre toute confiance. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on sache que lorsqu'on met en place une institution, nous perdons le pouvoir sur cette institution-là, parce qu'elle prend un pouvoir qui est issu non pas de nous, mais de la constitution que nous avons tous choisie. Et dès ce moment-là, on doit faire confiance avant toute critique basée sur rien du tout.
Merci Jean-Pierre Kambi. La réaction, Valentin Moubaké.
Il n'y a pas de confiance avant, surtout pas avant, tel que le souligne M. Kambi. Il ne peut pas y avoir de confiance avant. La méfiance, la question que vous posez, elle n'est pas de type idéologique tel que l'a dit M. Kambila. La méfiance vient de notre vécu quotidien dans ce pays. Nous ne disons pas que les juristes membres de la Cour constitutionnelle ou les membres de cette Cour, de manière générale, sont des idiots, comme il a aussi souligné, ils ne sont pas des idiots. Nous disons qu'ils ne sont pas des idiots. Mais nous savons comment fonctionne ce pays par rapport au leadership de ce pays. Nous avions une CENI. On nous disait la même chose, il faut faire confiance. En plus, il y a un prélat à la tête. Qu'avons-nous vu? Qu'avons-nous vécu? Eh bien, aujourd'hui, c'est une cour constitutionnelle. Mais nous avons des juridictions dans ce pays qui prennent des arrêts. Dans quel sens? Et ce sont des professeurs d'université qui sont là-bas, qui se permet d'écrire l'inanité ou l'inaction d'un pays ou la révision constitutionnelle, pas plus tard qu'il y a moins d'un an. C'est-à-dire qu'ils marchent sur la science. Je dis bien qu'ils marchent sur la science. Et heureusement d'ailleurs, la devise du campus est science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et donc nous gardons cette devise-là
comme notre boussole vis-à-vis de cette Cour constitutionnelle. Beaucoup d'entre eux ont exercé des fonctions dans ce pays, dans différentes juridictions. Dans quel sens? Et donc, nous nous disons, la dose de confiance dans ce contexte-là, de mise en place de cette Cour-là, dans ce marchandage-là, toujours avant les élections, on tripote, on met en place quelque chose, en violation de la Constitution. Nous serons vigilants. Et nous n'avons pas une confiance aveugle.
Vous êtes un peu trop pessimiste là, monsieur Moubaki.
C'est la réalité du Congo. Mais je ne rejette rien. C'est la réalité que nous vivons dans ce pays. Pourquoi vous dites que moi je suis pessimiste et me posez la question à monsieur Kabila? Pourquoi une loi qui a été votée en 2011, vous avez attendu 2013 pour la promulguer, en violation de la Constitution? Et pourquoi, vous, même promulgué en 2013, vous avez attendu 2015 pour mettre en place? Mais vous faisiez quoi dans l'entretemps? Vous arrangiez des choses. Donc, il nous conforte dans notre méfiance.
Alors, il y a des auditeurs. Merci, M. Moubaké. Professeur, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. Emmanuel Moukouna qui dit ceci. Je ne crois pas que cette Cour sera indépendante. C'est juste un instrument entre les mains des politiciens qui vont la manipuler selon leur volonté. Alain Ewesi Maurice, l'installation en soi des membres de cette Cour n'est pas une mauvaise chose, mais agir en toute indépendance, c'est ça le véritable calvaire qui caractérise la justice congolaise. Bruno Kalunga de Lubumbashi au Katanga. Je salue l'installation de la Cour constitutionnelle. La seule question que je veux savoir avec cette jeune démocratie, est-il possible de juger un président et son premier ministre dans notre pays? Des réactions qui nous viennent comme ça de partout.
Oui, oui, je note que même les auditeurs applaudissent. En fait, ils sont plus ou moins d'accord pour l'installation de la Cour, mais restez quand même méfiants vis-à-vis de ses membres, puisqu'ils tiennent beaucoup à l'indépendance de la juridiction. Mais je pense que la méfiance n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Ça permet, ça aiguise les comportements. C'est d'ailleurs ça qui a permis également certains développements en Occident, parce que les rapports entre les Occidentaux sont basés d'abord sur la méfiance. Il n'y a pas de confiance de principe. Il faut la prouver sur le terrain. Et donc ça, ça peut être un aiguillon pour que les membres de la Cour constitutionnelle sentent qu'effectivement ils ont une lourde responsabilité et toute la nation les regarde. Mais n'importe comment, on n'aura jamais, comme l'a dit M. Kabila également, des juges venus du ciel. On les trouvera toujours ici au Congo avec nos défauts et avec nos qualités. Il faut travailler les défauts pour qu'ils se transforment en qualités et consolider les qualités. Moi, j'émets simplement le vœu que, effectivement, cette Cour prenne conscience de ses responsabilités, qu'elle soit véritablement indépendante. Peut-être elle va démentir certains pronostics que nous entendons aujourd'hui. Hein. Voilà. Les compétences, par exemple, la compétence de juger le président de la République, M. Kabila l'a dit, ce n'est pas la seule. Ce n'est même pas la plus importante dans les juridictions concernées à travers les mondes. Mais c'est une spécificité congolaise. On a estimé que la nature des infractions qui peuvent être reprochées au président de la République et le Premier ministre est tellement politique qu'il faut une juridiction qui a une certaine dose politique.
Alors, en conclusion, professeur, parce qu'il nous reste moins de deux minutes pour faire l'émission.
Ah, moi, je conclue en disant que nous l'avons attendue depuis 1960, maintenant qu'elle est là, avec l'installation de ses membres, avec la prestation des serments. Je souhaite que ses membres se montrent véritablement indépendants. Je souhaite qu'ils maîtrisent véritablement le procès constitutionnel. Et à ces conditions, je leur dis bon vent.
Merci, professeur Ngondanko et Jean-Pierre Kabila. Un mot en guise de conclusion.
Nous avons là une avancée de notre démocratie. J'espère que nous continuerons. Il faut que le plus vite que possible, on complète les cours qui restent pour avancer dans la démocratie. Parce qu'on avance, on n'est pas à l'arrêt.
Merci M. Kabila, Valentin Moubaké.
Eh ben, la cour est là, nous allons la voir à l'œuvre et nous aviserons.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe, Guy Maté, Mary Franklin, Louchak, sous la supervision de Ben Kabamba. La technique était assurée par Héritier Sidiakala. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.